Nous continuons, chers amis, la série sur le chemin du calvaire. La première partie, ou le premier sujet, ce sera le vrai serviteur. Le deuxième sujet, la puissance du sang de l'agneau. Et le troisième sujet, sommes-nous innocents? Mais pour le moment, nous allons voir le vrai serviteur. Le Nouveau Testament dit très clairement que le Seigneur attend de nous que nous prenions la position humble de serviteur. Ce n'est pas là une obligation secondaire que nous pouvons accepter ou refuser à notre guise. C'est la base même des véritables relations avec Christ et notre prochain. Le disciple doit choisir cette humble position s'il veut connaître la communion avec Christ et la sanctification dans sa vie. Quand j'aurai une idée de la dose d'humiliation et de dépouillement que Dieu exige du vrai serviteur, je comprendrai alors que ceux-là seuls qui vivent au pied de la croix peuvent parvenir à cette position. Ils ne pourront s'y maintenir qu'en contemplant toujours à nouveau le Seigneur brisé et humilié pour eux. Avant d'aborder ce sujet et son application pratique pour notre vie, relevons trois points importants qu'il convient d'élucider. Ils nous donneront la véritable notion du serviteur de Jésus-Christ. L'Ancien Testament mentionne deux sortes de serviteurs. D'une part, les mercenaires, auxquels on paye un salaire et qui ont certains droits. D'autre part, les esclaves non rétribués et devant se soumettre totalement à leur maître, dont ils sont évidemment la propriété. Ils étaient interdits, on peut dire, il était totalement interdit aux Hébreux de prendre des esclaves de leur race. C'était ainsi, et le Nouveau Testament contient l'expression plusieurs fois répétée de serviteur de Jésus-Christ. Le mot grec traduit par serviteur n'a pas le sens de mercenaire, mais bien d'esclave. Chers amis, que conclure de cela? C'est que notre position de serviteur de Jésus-Christ ne nous confère aucun droit. Nous sommes la propriété absolue de notre divin maître. Il peut disposer de nous et nous traiter comme il lui semble bon. Un autre point important, c'est que nous sommes les serviteurs de celui qui a accepté d'être lui-même esclave. Le texte bien connu de Philippiens chapitre 2 versets 6 à 7 nous montre jusqu'où est descendu notre maître et confirme ce que nous venons de dire. Lui qui, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'esclave. Qu'est-ce que cela veut dire, sinon qu'il n'avait aucun droit? Il a accepté d'être traité comme le père le jugerait bon, et comme la méchanceté des hommes en déciderait, pourvu que l'humanité perdue puisse être sauvée et puisse être rendue à Dieu. Oui, vous et moi, nous devons être les esclaves de celui qui a été l'esclave par excellence, de celui dont la nature même est l'humilité et dont la mission a été de s'humilier pour servir ses créatures. Par rapport à cela, combien basse doit donc être notre position? Combien cela nous montre ce que signifie être soumis à Christ? Mais allons un peu plus loin. Comment puis-je trouver et savoir que je suis esclave de Jésus-Christ? Eh bien, c'est en devenant l'esclave de ceux qui m'entourent. Évidemment, cela n'est pas facile. L'apôtre Paul nous dit, pardon, dans l'une de ses merveilleuses lettres, « Nous sommes vos esclaves à cause de Jésus-Christ. » Dieu juge la position d'humilité que nous avons choisie à son égard à la position d'humilité que nous occupons vis-à-vis des autres. En d'autres termes, si nous refusons de servir notre prochain, quand par exemple cela nous coûte et nous humilie, eh bien Dieu considère que nous refusons de le servir lui-même. Et dès lors, toute communion est impossible avec lui. Voyons maintenant comment nous pouvons être dans la pratique serviteurs de Jésus-Christ. Dieu m'a parlé il y a quelque temps par le passage suivant. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Et ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à manger, ceins-toi et me sers jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce que il a fait ce qui lui était ordonné. Vous de même, lorsque vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites simplement, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce que nous devions faire. C'est décrit dans Saint Luc, chapitre 17, verset 7 jusqu'au verset 10. Je trouve dans ce texte, on peut dire, cinq caractéristiques de l'esclave. Premièrement, il doit accepter qu'on exige beaucoup de lui, qu'on le charge de toutes sortes de corvées, sans considération pour sa personne. Après une journée de dur labeur dans les champs, le serviteur de la parabole doit préparer immédiatement le repas de son maître et le servir à table, et ceci avant même de prendre la moindre nourriture. Il le fait simplement, et ceci sans discuter, et ne s'attend à rien d'autre. À combien peu nous sommes prêts à accepter cela? Nous murmurons si facilement. L'amertume envahirait bientôt nos cœurs si l'on nous demandait pareille chose. Or, en murmurant, nous agissons comme si nous avions des droits. Or l'esclave n'en possède pas. Deuxièmement, après avoir fait tout cela, il doit accepter de ne recevoir aucun remerciement. Combien souvent nous avons égard à notre personne quand nous servons les autres. L'amertume nous saisit lorsque nous les voyons accepter notre dévouement comme tout naturel et sans gratitude. Troisièmement, après avoir servi les autres, nous ne devons pas les juger. Dans la parabole, le maître nous paraît égoïste, sans doute, mais l'esclave ne fait aucune critique. Il n'accuse pas. Il est là pour servir et peu lui importe que son maître soit égoïste ou non. Et nous ? Peut-être acceptons-nous qu'on accumule les fardeaux sur nos épaules. Peut-être acceptons-nous l'ingratitude. Mais intérieurement, nous reprochons à nos semblables leur égoïsme. Cependant, le vrai serviteur reste insensible à tout égoïsme. Et c'est pour lui l'occasion de ressembler encore davantage à Christ qui fut le serviteur de tous. Quatrièmement, le véritable serviteur doit confesser qu'il n'est en définitif qu'un serviteur inutile et que Dieu et les hommes pouvaient très bien se passer de ses services. Il ne faut pas se lasser de reconnaître qu'en nous, c'est-à-dire dans notre chair, n'habite rien de bon. Notre cœur naturel est si orgueilleux et si revêche qu'il ne peut rien produire qui satisfasse notre Seigneur. Et s'il nous arrive de faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est le Seigneur Jésus-Christ habitant en nous par l'Esprit Saint qui les fait. Il nous a donné le vouloir et évidemment le pouvoir de le faire. Ainsi, toute la gloire de notre travail lui en revient. Le cinquième point. Il enlève à notre moi tout espoir de s'attribuer la moindre ou le moindre succès. Le vrai serviteur doit donc savoir que toute la patience, toute la douceur et le support qu'il a montré en se dévouant pour les autres ne sont rien de plus que son devoir. Donc, rien de plus que ce qu'il devait faire. Au commencement, Dieu créa l'homme tout simplement pour qu'il soit son serviteur. Et le péché de l'homme fut justement de refuser cela. Aussi, pour être réhabilité, il doit être de nouveau rétabli dans la position d'esclave. En l'acceptant, il ne fait rien de remarquable, puisqu'il a été créé et sauvé dans ce but. Ainsi est le chemin de la croix. C'est le chemin que le seul et véritable esclave, Jésus-Christ, a tracé, et ceci pour toi et pour moi. Refuserions-nous, chers amis, de suivre ses pas et d'être l'esclave du divin esclave? Ce chemin descend toujours. Et c'est pour cela qu'il nous semble dur, il nous semble impossible à suivre. Mais soyons-en certains, c'est quand même le seul chemin qui monte. Et c'est par cette voie que le Seigneur a accédé au trône. Oui, c'est le seul chemin par lequel nous aussi nous arriverons à la puissance spirituelle, à l'autorité selon Dieu, à la fécondité. Ceux qui foulent ce sentier ont l'âme rayonnante et heureuse. Elle déborde de la vie d'en haut. Ils ont donc découvert que pour eux, comme pour leur maître, celui qui s'abaisse sera élevé. Et pour cela, l'humilité, qui n'était auparavant qu'une intruse peu désirée, on peut le dire, et seulement tolérée lorsqu'elle était de circonstance, elle est tout à coup devenue comme l'épouse de leur âme. Ils se sont donc unis à elle pour toujours. Si les ténèbres et le trouble envahissent de nouveau leur cœur, c'est qu'ils n'ont pas voulu, sur un point ou sur un autre, cheminer avec elle sur le sentier de la douceur et du brisement. Mais si dans la repentance, ils la cherchent à nouveau, elle est toujours prête à les recevoir avec joie dans sa compagnie. Ceci nous amène à un point des plus importants, c'est-à-dire la repentance. On n'entre pas dans une vie de plénitude en décidant simplement qu'on sera plus humble à l'avenir. Il y a des attitudes et des actions du passé dans lesquelles nous persistons, ne serait-ce que dans le fait de ne pas nous humilier à leur sujet. Nous devons tout d'abord nous en repentir. Jésus-Christ n'a pas revêtu la forme d'un esclave dans la seule intention de nous donner un exemple à suivre, mais afin de mourir sur la croix à cause de nos péchés, de mes péchés, pour que nous soyons lavés par son sang précieux. Or, ce sang ne peut être appliqué à nos cœurs que si nous sommes brisés et repentants. Et pour arriver à ce brisement, il faut permettre à la lumière de Dieu, de fouiller notre cœur dans ses moindres replis et de mettre en évidence tous les liens du péché. Notre orgueil nous apparaîtra si monstrueux que nous comprendrons alors pourquoi il fallait que Jésus-Christ quittât son ciel de gloire et se rendit à la croix. Il n'y avait que sa mort expiatoire pour nous obtenir le pardon de Dieu. Cela signifiera aussi que nous devrons demander pardon non seulement à Christ, mais aussi à notre prochain. Ce sera humiliant pour nous, ça c'est vrai. Il faut bien en convenir. Mais pourtant, après avoir franchi en rampant la porte des brisés, nous pénétrerons dans la lumière et la gloire de la voie sainte. Elle est faite de sainteté et d'humilité. Vous pouvez me croire, mes chers amis, si je vous dis que moi, qui vous parle maintenant, et malgré mon âge, j'ai encore beaucoup à m'humilier, vous pouvez me croire. Notre deuxième sujet, c'est la puissance du sang de l'agneau. Les messages de réveil que le Seigneur adresse à plusieurs d'entre nous ces derniers temps est un message très simple, capable de sonder notre âme. Il se résume ainsi. Rien au monde ne peut empêcher le chrétien de marcher dans une communion victorieuse avec Dieu et d'être rempli du Saint-Esprit, sinon le péché sous une de ses nombreuses formes. Et il n'y a qu'une seule chose capable de purifier du péché avec tout ce que cela comporte de libération et de victoire, c'est évidemment le sang de Christ. Mais il est très important que nous comprenions ce qui confère au sang de Christ sa puissance, afin de réaliser dans quelles conditions cette puissance peut agir pleinement dans notre vie. Elles sont nombreuses, les grâces que le Saint-Esprit et que les saintes Écritures nous attribuent à la puissance du sang de Jésus-Christ. Voyez-vous, il fait la paix, ce sang de Christ, entre Dieu et l'homme, selon qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 1, verset 20. Et par la puissance de son sang précieux, nous avons la rédemption, c'est-à-dire la rémission de nos péchés et bien entendu la vie éternelle, selon Colossiens chapitre 1, verset 14, ainsi que Saint Jean chapitre 6, verset 54. Or, par cette puissance, Satan sera et il est vaincu. Lisez ou notez Apocalypse chapitre 12, verset 11. Et par cette même puissance, nous pouvons être constamment purifiés de tout péché, selon la première épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 7. Et nous pouvons être libérés de la tyrannie d'une mauvaise conscience, et ceci afin de servir beaucoup mieux le Dieu vivant. Hébreux chapitre 9, verset 14. Ensuite, ce sang précieux confère aux plus indignes le droit de pénétrer dans le lieu très saint jusque dans la présence de Dieu et d'y demeurer tout le jour. C'est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 19. Nous pouvons bien, en effet, nous demander quelle est l'origine de cette puissance. Une deuxième question s'impose. Comment l'expérimenter pleinement? Trop souvent, ce sang n'exerce pas en nous sa puissance purificatrice, pacificatrice et vivifiante. Et trop souvent, nous ne demeurons pas tout au long du jour, dans la présence et dans la communion de Dieu. Chers amis, voyons un peu la question numéro 1 à ce sujet. D'où vient donc cette puissance? La réponse à cette question nous est suggérée par une expression du livre de l'Apocalypse. Le sang de l'agneau est-il écrit là, le sang de l'agneau, Apocalypse 7, verset 14. Non pas le sang d'un guerrier célèbre, mais le sang de l'agneau. En d'autres termes, ce qui, aux yeux de Dieu, confère une telle puissance au sang du Sauveur en faveur des hommes, c'est que celui qui l'a versé avait le caractère d'un agneau et non pas d'un célèbre guerrier. Le titre d'agneau, si souvent donné à Jésus-Christ dans les saintes Écritures, indique tout d'abord son œuvre expiatoire pour nos péchés. D'Israélites coupables, qui voulaient être justifiés devant Dieu, devait donc, cet Israélite, il devait égorger un agneau dont le sang était ensuite répandu sur l'autel. Jésus-Christ est l'accomplissement divin de tous les sacrifices d'agneaux qui ont été offerts par les hommes. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Notez Saint Jean chapitre 1, verset 29. Mais le titre d'agneau a une signification plus profonde encore. Il décrit son caractère, un caractère doux et humble de cœur, ne résistant pas et soumettant constamment sa volonté à celle du Père, selon Saint Jean, chapitre 6, verset 38. Et ceci, pour le salut des hommes, oui, tout autre que l'agneau aurait protesté, aurait résisté contre le traitement que les hommes lui infligèrent. Mais lui, Christ, par obéissance envers le Père et par amour pour nous, n'en fit rien. Les hommes firent de lui ce qu'ils voulurent, mais pour nous sauver, Jésus-Christ décida jusqu'au bout d'obéir au Père. Injurié, il ne rendit pas l'injure. Maltraité, il ne proféra pas de menaces. Il n'a pas fait valoir ses droits, ni rendu les coups. Quelle différence avec nous ! Lorsque la volonté du Père et la méchanceté des hommes lui montrèrent comme but le calvaire, il baissa humblement la tête, l'acceptant tel quel. Et c'est déjà comme tel que l'annonce Ésaïe. Il est écrit au verset 7 d'Ésaïe 53, « Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. » Ésaïe 53, verset 7. La flagellation, la moquerie, les crachats, la barbe arrachée, la pénible marche au calvaire, les clous, le côté percé, le sang répandu, rien de cela n'aurait eu lieu s'il n'avait pas été l'agneau. Et tout cela pour payer le prix de mon péché et de ton péché. Et c'est ainsi que Jésus-Christ n'est pas seulement l'agneau, parce que il mourut sur la croix, mais il mourut sur la croix parce qu'il était vraiment l'agneau. Reconnaissant toujours cette caractéristique du précieux sang, et chaque fois qu'on en parlera, que nous nous rappellerons la profonde humilité et l'abandon de l'agneau, car c'est vraiment là ce qui confère au sang sa merveilleuse puissance auprès de Dieu, et ceci en faveur des hommes, en faveur de nous. Vous pouvez noter Hébreux chapitre 9, verset 14, et là nous voyons le sang de Christ uni pour toujours à l'offrande volontaire, vous l'avez bien compris, du sang versé par Jésus-Christ. et unis pour toujours à l'offrande volontaire, comme on a dit, de Jésus. Et combien plus, chers amis, ce sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans aucune tache à Dieu son Père. Oui, ce caractère a toujours été d'une valeur suprême, on peut le dire, d'une valeur suprême aux yeux du Père Céleste. Donc l'humilité, la nature de l'agneau, l'abandon de notre volonté à Dieu, voilà, chers amis, ce que le Seigneur recherche dans l'homme. C'était, du reste, dans le but de manifester tout cela que Dieu créa l'homme. Et le refus de celui-ci de marcher dans cette voie constitua le premier péché et a toujours été depuis la quintessence du péché. Et c'est pour rendre au monde cette nature que Christ est venu. Et c'est parce que le Père l'a vu en lui qu'il a pu dire « Oui, celui-ci, sachez qu'il est mon Fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. » Et c'est parce que son sang précieux répandu est l'expression suprême de cette nature qu'il a, aux yeux de Dieu, un prix insurpassable et qu'il est tout-puissant pour arracher l'homme à son péché. La deuxième question est la suivante. Comment pouvons-nous expérimenter pleinement cette puissance dans notre vie? Eh bien, notre cœur nous donne déjà la réponse, tandis que nous contemplons l'agneau, baissons la tête, pour nous, au calvaire, nous ne pourrons faire l'expérience de la puissance de ce sang qu'en acceptant d'avoir en nous les mêmes sentiments qui étaient en lui. Oui, en étant brisé carrément comme lui, de même que c'est le caractère de l'agneau qui confère au sang sa valeur, ce n'est aussi que dans la mesure où nous sommes prêts à être participants de ces mêmes dispositions que nous connaissons la plénitude de sa puissance dans notre vie. Et nous pouvons en être participants, selon Philippiens 2, verset 5, et même 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, car elle a été rendue transmissible par sa mort. Tous les fruits de l'esprit mentionnés dans Galates chapitre 5, l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la foi, l'humilité, la tempérance, ne sont autre chose que l'expression même de la nature d'agneau du Seigneur dont le Saint-Esprit veut nous remplir, veut vous remplir. N'oublions jamais que le Seigneur Jésus-Christ, bien que élevé au trône de Dieu, est toujours l'agneau, comme nous le révèle le livre de l'Apocalypse, et qu'il désire se reproduire en chacun de nous. Chers amis, avant de terminer, nous avons une question sérieuse. Sommes-nous vraiment prêts? Oui, sommes-nous prêts à nous laisser transformer à l'image de l'agneau? Pour cela, il faut que le moi qui se défend et résiste aux autres soit anéanti. Nous pouvons prier longtemps pour être purifiés de tel ou tel péché et pour retrouver la paix tant que nous ne serons pas prêts à être brisés sur le point en question et à être rendus participants de l'humilité de l'agneau. Rien pourra se passer si nous le faisons pas. Donc chaque péché que nous commettons provient du moi qui n'est pas brisé, donc d'une forme de l'orgueil, on peut bien le dire. Et nous n'aurons pas la paix par le sang de Jésus-Christ avant d'avoir reconnu la source de chaque péché et transformé les sentiments qui l'ont provoqué en une repentance précise qui est toujours humiliante. Il ne s'agit pas seulement d'essayer de ressentir l'humilité de Christ. Non, il nous suffit de marcher dans la lumière et de laisser Dieu nous révéler tout péché en nous pour l'entendre nous demander toutes sortes d'actes pratiques de repentance et d'abandon. Donc tous les péchés, on peut bien le dire, tout simplement, doivent avoir comme définition la repentance et d'abandonner le péché. Et là, eh bien, ils ne manqueront pas de nous coûter quelque chose, c'est pas facile, mais cela souvent dans des choses qui paraissent secondaires et triviales, mais il faut le faire. C'est ça que Dieu nous demande. Et cependant, leur importance peut être jugée par le prix qu'elle coûte à notre orgueil. Oui, notre orgueil en prend un coup, on peut le dire. Et il se peut que Dieu nous montre que nous devons faire telle excuse ou même de restituer telle chose, selon Saint Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Ou bien même, il nous indiquera quelque chose à abandonner, quelque droit imaginaire. Jésus-Christ n'avait pas de droit, savez-vous cela? Il n'avait aucun droit. Or, pouvons-nous en avoir quand lui en avait pas? Il se peut encore qu'il nous pousse à aller trouver celui ou celle qui nous a fait du tort pour lui confesser le tort plus grand encore de lui en avoir voulu. Christ n'a jamais eu de ressentiment. Avons-nous donc le droit d'en avoir? Peut-être nous demandera-t-il aussi d'être plus ouvert vis-à-vis de nos amis, et ceci afin qu'ils apprennent à nous connaître tels que nous sommes véritablement, et que nous ayons avec eux une meilleure communion, une communion véritable. Et il se peut que ces actes soient humiliants, ça c'est certain, cependant ils nous amènent au brisement pratique et à l'humilité de l'agneau. Le sang précieux pourra ainsi nous purifier de tout péché et nous pourrons marcher avec Dieu ayant sa paix dans notre cœur. Et notre troisième et dernier sujet, c'est sommes-nous vraiment innocents? Nous avons tellement pris l'habitude de condamner le pharisien orgueilleux et propre juste de la parabole, selon Saint Luc chapitre 18, versets 9 à 24, que nous avons une peine, une grande peine, à réaliser que c'est là notre portrait, et cela prouve combien il lui est semblable. Nul ne lui a jamais autant ressemblé, que la monitrice d'école du dimanche qui termina sa leçon sur cette parabole en disant « Et maintenant, chers enfants, nous pouvons remercier Dieu de ce que nous ne sommes pas comme le pharisien. » Chers amis, nous ne sommes tout spécialement en danger. Je crois que nous sommes en danger d'adopter cette attitude-là quand Dieu veut nous humilier au pied de la croix et nous montrer les péchés qui entravent son œuvre en nous. Aussi pour comprendre ce qu'il y a de faux dans l'attitude du pharisien et dans la nôtre, il faut la considérer à la lumière de ce que Dieu dit du cœur humain. Il dit « C'est du dehors, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. » C'est dans Saint Marc, chapitre 7, versets 20 à 23. Donc, l'apôtre Paul nous brosse une image non moins sombre dans l'épître aux Galates, et je crois au chapitre 5. Il dit « Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Quel tableau, n'est-ce pas? Et Jérémie rend un témoignage totalement identique. Il dit au chapitre 17, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, au point qu'il se trompe lui-même sur son propre état. Il est méchant, et qui peut le connaître ?» Jérémie chapitre 17, verset 9. « Tel est le cœur humain, le moi déchu. » Oui, le vieil homme, comme les saintes écritures l'appellent dans Éphésiens chapitre 4, verset 22, qu'il s'agisse d'un inconverti ou du chrétien le plus avancé, c'est pareil, on a peine à croire que ces choses puissent se trouver dans le cœur de pasteurs, de prêtres, d'évangélistes ou d'autres chrétiens militants. Cependant, c'est bien la réalité. De toute évidence, la seule chose belle dans le chrétien, c'est rien d'autre que Christ. Dieu veut que nous reconnaissions ce fait, afin que dans un désespoir et un brisement véritable, nous acceptions Jésus-Christ comme notre justice et comme notre sainteté, comme étant tout en tous. C'est là la victoire totale pour nous. Devant la description divine du cœur humain, nous saisissons la portée des paroles du pharisien en disant « Je rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, ravisseurs injustes et adultères. » Il se déclarait innocent des choses mêmes que Dieu constate dans le cœur humain. Il voulait dire en effet, « Sans aucun doute, ces choses sont le fait des autres, en particulier de ce publicain qui les confesse. » Mais elle ne se trouve pas en moi. Se disant, il rendait Dieu menteur, car si nous disons que nous n'avons point de péché, nous faisons Dieu menteur, selon la première épître de Jean, chapitre 1, verset 10. Cependant, il devait être parfaitement sincère dans sa déclaration. Il se croyait vraiment innocent et attribuait même son innocence à Dieu, puisqu'il l'en remerciait. Il ne réalisait pas que la parole de Dieu était contre lui. Si le publicain se frappe la poitrine et confesse ses péchés, ce n'est pas que ces derniers soient pires que ceux du pharisien, mais simplement parce qu'il a compris que ce que Dieu dit est vrai pour lui. Oui, le pharisien en est encore à penser que le fait de s'abstenir de certains péchés extérieurs suffit pour être innocent. Il n'a pas encore saisi que Dieu ne regarde pas à ce qui se voit, mais qu'il regarde au cœur, selon 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Et considère également un regard de convoitise. Il fait de cela, vous avez bien entendu, un simple regard de convoitise est l'équivalent à l'adultère. C'est presque impensable, mais c'est Saint Matthieu 5, chapitre 5, verset 28 qui nous l'indique. Le ressentiment et la haine est déjà considéré comme un meurtre, selon la première épître de Jean, chapitre 3, verset 15. Et l'envie comme un vol, et les mesquines tyrannies, les tyrannies domestiques, comme les pires malhonnêtetés. C'est pas rien tout cela, c'est quand même sévère. Aussi, combien de fois n'avons-nous pas, nous aussi, protesté de notre innocence lorsque Dieu, en convainquant les autres, cherchait à nous convaincre nous-mêmes, moi-même. Et nous avons dit ou nous avons pensé, « Oh là là, ces péchés existent chez tel un tel, mais ils n'existent pas chez moi. » Et cela peut être, pourquoi pas, en toute sincérité. Nous avons peut-être méprisé tel frère ou sœur en les entendant s'humilier et confesser certaines choses pour les mettre en règle, et nous nous sommes peut-être même réjouis de ce que Dieu les bénissait de cette manière. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas vu pour nous-mêmes, la nécessité d'être brisés. Mes bien-aimés, si nous nous croyons innocents et ne ressentons pas le besoin de nous humilier, cela ne signifie pas que nous soyons sans péché, mais simplement que nous ne les voyons pas. C'est cela. Nous avons vécu d'illusions, et cependant, Dieu doit avoir raison. Dieu doit avoir raison qui, sous une forme ou une autre, constate en nous, en moi, la présence de ces choses, à moins que nous les ayons reconnues et que nous ayons accepté qu'il les juge. Égoïsme, inconscient, orgueil, satisfaction de soi, la jalousie, le ressentiment, l'impatience, un esprit renfermé, la malhonnêteté, la tromperie, l'impureté, la convoitise, et j'en passe. Si ce n'est pas l'une, eh bien, ça peut être l'autre. Et nous ne les voyons pas. nous sommes peut-être si préoccupés du tort que on nous a fait que nous ne voyons pas que nous péchons en ne les prenant pas avec la douceur, avec l'humilité de Jésus-Christ. Nous constatons clairement combien l'autre cherche à défendre ses droits, mais nous ne voyons absolument pas que nous faisons la même chose. Et cependant, nous sentons que quelque chose manque dans notre vie. Nous ne sommes pas en communion vivante avec Dieu comme nous le devrions. Notre vie spirituelle n'est pas à 100%. Notre service ne déborde pas en bénédictions surnaturelles. Le péché inconscient n'en est pas moins du péché aux yeux de Dieu. Et il nous sépare malheureusement de lui. Il se peut que dans notre cas, il s'agisse d'une petite chose que Dieu est tout prêt à nous montrer, si seulement nous le lui demandons. Il existe encore un autre piège dans lequel nous tombons lorsque nous ne reconnaissons pas la vérité de ce que Dieu dit au sujet du cœur humain. Non seulement nous protestons de notre innocence, mais encore de celle des nôtres. Nous les surprotégeons. Nous n'aimons pas les voir convaincus de péché et humiliés. Et nous hâtons de les défendre. Nous nous faisons autant d'illusions à leur sujet qu'aux nôtres. Et nous ne voudrions pas les voir détruits. C'est normal. Mais en agissant ainsi, nous les opposons à Dieu, faisons Dieu menteur à leur sujet et nous les privons de la bénédiction comme nous-mêmes. Seule une profonde soif de communion avec Dieu peut nous faire crier à lui pour qu'il nous éclaire de sa lumière incomparable et qu'il nous apprenne à lui obéir en toutes choses. Cela nous ramène au publicain. En considérant encore une fois ce que Dieu dit du cœur humain, nous voyons que sa confession ne fait que donner raison à Dieu et il reconnaît que tout ce que Dieu a vu en lui est totalement correct et juste. Il ne l'a peut-être pas toujours reconnu, mais voyez-vous, le Saint-Esprit a pu l'éclairer et il est maintenant brisé. Heureusement pour lui, non seulement il donne raison à Dieu en tout ce qu'il lui a montré, mais sans doute aussi en ce qui concerne le châtiment qu'il s'est attiré par ses fautes. La prière de Néhémie aurait pu être la sienne. Il est dit au chapitre 9, verset 33 de Néhémie, « La prière de Néhémie aurait pu être la sienne, car il est dit, tu as été juste dans tout ce que nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. » C'est merveilleux cela. Et c'est là le fond de toute véritable confession. Il ne faut pas avoir peur de se confesser de nos péchés, de mes péchés, de tout brisement authentique. C'est confesser que mon péché n'est pas simplement une erreur de passage, mais quelque chose d'étranger à mon cœur, d'incompatible compatible même avec ma nature, mais que, bien au contraire, il révèle mon moi véritable. Il me montre que je suis, moi, cette créature fière, impure et corrompue que Dieu voit en moi, et que je suis parfaitement capable d'avoir de telles pensées, oh oui, et de commettre de tels actes, encore oui. Et c'est bien en ces termes que David confessait son péché. Il a dit « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. » Mes chers amis, ne craignons pas de faire une telle confession. Quand Dieu nous le montre, ne pensons pas que cela déshonore le Seigneur, surtout pas. Bien au contraire, nous le glorifions de cette manière-là, car nous affirmons que ses déclarations à notre égard sont vraies. Et cela nous amène à expérimenter une nouvelle victoire en Christ qui confirme, une fois de plus, ce que dit les Saintes Écritures, ce qui est bon, je le sais, car cela n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, selon Romains 7, verset 18. Je répète, ce qui est bon, je le sais, mais ce qui est bon n'habite pas en moi, n'est-ce pas? Et nous en arrivons à un point où nous cessons d'essayer de sanctifier notre moi, mais où c'est Jésus-Christ qui devient notre sanctification, et où sa vie à lui va devenir enfin la nôtre. Mais le publicain a compris et il a fait encore mieux que cela, que de donner simplement raison à Dieu. Il fixa ses regards sur le sacrifice de l'autel. Elle trouva ainsi la paix avec Dieu et la purification de son péché. Cela ressort du sens littéral de ses paroles, où il dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur », c'est-à-dire « Sois-moi propice » dans le sens de la propitiation. Et le Juif n'avait qu'un moyen de se rendre donc Dieu propice. C'était évidemment le sacrifice. Et très probablement, au moment même de la confession du publicain, l'agneau de l'Holocauste qu'on offrait tous les jours brûlait sur l'autel. Il en est de même pour nous. L'homme ne saurait arriver à cette attitude de brisement sans Dieu qui le lui montre, qui lui montre sur la croix du calvaire l'agneau divin, effaçant son péché, mon péché, par son sang répandu. L'Évangile qui déclare d'emblée ce que nous sommes, a par avance pourvu, il a pourvu à un sacrifice pour notre, pour votre et pour mon péché. Jésus-Christ est l'agneau immolé pour le péché de la fondation du monde. Et en lui, qui les a portés dans l'humilité, mes péchés sont effacés. Tandis que dans un brisement véritable, je les confesse maintenant et je crois en l'efficacité de son sang précieux. Ils sont donc purifiés et ôtés. Gloire à Dieu. La paix de Dieu et la communion avec lui me sont immédiatement rendues et je reprends ma marche avec lui en vêtements blancs. Le simple fait de donner raison à Dieu et de reconnaître que le sang nous purifie, nous met à même, comme jamais auparavant, de marcher dans une étroite communion avec Jésus-Christ et de demeurer avec lui dans le lieu très saint. Tandis que nous marcherons avec lui dans la lumière, il nous montrera les premières racines de choses, des choses que, si nous les laissons prendre pied, l'affligent et arrêtent le cours de sa vie en nous, car elles sont l'expression du vieux moi, de l'ancien moi-même, qui était orgueilleux et pour lequel Dieu n'a rien d'autre en réserve que le jugement. En aucun cas, nous ne sommes autorisés à protester de notre innocence quant à ce qu'il nous montre. Et quant à ce qu'il nous montre, pas seulement, mais que nous devons être constamment prêts à lui donner raison et de dire « Oui Seigneur, tu as vraiment raison, cela montre ce que je suis et je te l'apporte afin que tu puisses me purifier. » Et son sang précieux pourra alors nous purifier, me purifier, te purifier continuellement du péché qui sera arrêté à la source même, et nous pourrons aussi être continuellement remplis du Saint-Esprit. Pour cela, il faut avoir un esprit évidemment humble et contrit, c'est-à-dire être prêt à reconnaître les plus petites choses, ce qui n'est pas facile. Tels sont donc ceux dont Dieu déclare qu'ils habitent avec lui. Il le déclare, habitent avec lui dans les lieux élevés et dans la sainteté. C'est ce qui nous est dit dans Ésaïe chapitre 57, verset 15. Je veux vous répéter cette phrase un peu mieux que cela. Tels sont donc ceux dont Dieu déclare qu'ils habitent avec lui dans les lieux élevés et dans la sainteté. Ils connaissent un réveil qui ne cesse jamais. Or, voici, nous avons donc le choix. Oui, le choix, c'est de protester de notre innocence et rentrer dans notre maison sans avoir reçu de bénédiction. L'âme desséchée sera séparée de Dieu. N'oublions jamais cela. Ou bien alors, changement de 180 degrés, bien donner raison absolue à Dieu et entrer dans la paix, la communion et la victoire par le sang de Jésus-Christ, notre merveilleux Sauveur. Chers amis, avant de terminer par la prière, j'aimerais vous donner juste deux anecdotes, pas plus. Chers amis, donc, j'aimerais vous dire ceci. Avez-vous jamais vu quelqu'un rire aux éclats et peut-être même avoir l'air seulement super heureux, mais il n'est pas forcément heureux, car sous une apparence de gaieté et sous un air jovial peut se cacher souvent une détresse profonde. Et ceci était le cas de cet homme qui vint un jour consulter un médecin. Il se plaignait d'être dépressif et d'avoir des idées noires au point d'être dégoûté de la vie. le médecin l'ausculta sans découvrir le moindre trouble organique. Il en conclut que son client n'était pas tellement malade, mais qu'il avait besoin de changement, de détente et de distraction. Aussi, il lui dit « Essayez de lire un bon livre ». Mais le patient secoua la tête. « Cela ne servira à rien ». Le médecin reprit « Alors, allez au cinéma ou au théâtre ». Cela vous fera du bien et vous changera les idées. L'homme fit de nouveau un signe de tête négatif. Je n'ai plus qu'une seule suggestion à vous faire, proposa donc le médecin en dernier ressort. Pourquoi ne pas aller voir ce clown dont le numéro a un tel succès dans notre ville? Il paraît même qu'il est du plus haut comique et il finira bien par vous dérider. Pensez-vous ? Répliqua le pauvre homme d'un ton désespéré. Car voyez-vous ce clown, c'est moi. Chers amis, j'ai connu un des plus célèbres clowns du monde. C'était Grock. Or, en devenant plus âgé, abandonné par sa femme, il est devenu très dépressif, tout en continuant à faire rire des milliers de familles avec leurs enfants. Il est hélas mort seul, seul, dans une chambre d'hôtel, et surtout seul, sans Dieu. Ça, vous avez bien compris, c'est grave. Oui, chers amis, le salut est gratuit. Et qu'avez-vous répondu? N'avez-vous pas fait preuve d'incrédulité comme des milliers de personnes? Et n'avez-vous pas méprisé son offre? Voilà ce que Dieu dit dans sa sainte parole. Puisque j'appelle et que vous m'ignorez, puisque j'étends ma main, et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, eh bien moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, et je me moquerai quand la terreur vous saisira. Proverbe chapitre 1, versets 24 à 26. Mais attention, heureusement, Dieu dit aussi, « Vous tous qui avez soif, venez boire, même venez à l'eau qui va procurer la vie, cette eau vivante, l'eau vive qui va changer votre vie. Et vous tous qui avez soif, venez donc boire de cette eau-là. Et celui qui n'a pas d'argent peut venir. » Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Et écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulences. Prêtez l'oreille et venez simplement à moi, écoutez, et votre âme vivra, nous est-il dit dans Ésaïe chapitre 55. Eh bien, chers amis, quelle sera votre réponse aujourd'hui? Car il est bon de savoir que vous pouvez prendre la décision la plus importante de votre vie, celle de se livrer, de se donner à Jésus-Christ. Il est vrai que certains ne peuvent pas dire à quel moment précis ils ont fait ce pas dans leur enfance ou peut-être même plus tard. Mais l'essentiel est de l'avoir fait, car dès que nous acceptons Jésus-Christ comme Maître et Sauveur, nous avons la vie éternelle. Dieu le dit lui-même dans sa sainte parole, et il mérite notre confiance. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son saint nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Chers amis, nous terminons maintenant par la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous désirons te bénir et te prier, mais nos cœurs sont froids et glacés lorsqu'ils devraient brûler au-dedans de nous. Notre confiance, notre foi chancelle chaque jour lorsque nous devrions nous sentir tellement fortifiés par elle que rien au monde ne puisse nous ébranler. Oh, si nous étions véritablement convertis, ne marcherions-nous pas dans une voie toute nouvelle? Ne serions-nous pas toujours remplis de ferveur, d'espérance, de paix et d'abandon à ta volonté sainte pour toutes choses? Aie donc pitié de nous, Sauveur de nos âmes, toi seul peux leur donner du repos dans cette vie et dans la vie éternelle. Oui, toi seul es puissant pour changer nos cœurs, pour les renouveler par l'action de ta grâce. Ô Seigneur, exauce nos prières et fais éclater en nous toute ta divine puissance. Ne permets pas que, touchés, émus de ce qui frappe nos regards et nos sens, nous ne songions point aux choses invisibles et au malheur éternel qui sera notre partage si nous méprisons le salut. Ne permets pas qu'attendris à la vue des souffrances de nos semblables, nous sentions nos cœurs endurcis pour celles que Jésus-Christ, notre adorable Sauveur, a endurées pour nous. Ô notre Dieu, subviens à notre misère morale, à notre faiblesse, à notre aveuglement, et daigne attirer à toi nos âmes, nos cœurs et nos pensées. Nous t'invoquons aussi pour tous ceux qui nous sont chers, et nous plaçons toute notre espérance en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime, ça c'est une réalité, et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis, et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études, et j'espère que vous continuerez à écouter les études qui suivent le chemin du calvaire. Au revoir, mes très chers amis.